Maintenant, je vais me mettre à écrire L'homme qui tremble, mon portrait, enfin si j'y arrive, et je cherche quel livre pourrait bien m'accompagner. Je suis allée traîner tout un après-midi chez Gibert, en ai ouvert 6 ou 7, me suis remise à marcher à travers Paris, puisque je suis à Paris pour quelque temps encore, cette ville qui m'effraie, avant de regagner ma maison sur le Mont Ventoux. Et le soir, j'ai recommencé à en feuilleter plusieurs, plantés devant la bibliothèque de mon amie Sarah. Des livres que je pensais, que j'espérais, mais non, rien du tout. Lionette Duroy est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « L'homme qui tremble ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique en tremblant d'émotion puisque nous allons écouter Arnaud.
On voyait les jours, la mer qui fonçait la tête la première et qui fracassait leur crinière devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps. En amande, ni gris ni vert, ni gris ni vert, comme à Houston et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout. Parti vers ma destinée, me voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière on vous la servait. Les bras dessus, dans le quartier où il y a des vitrines remplies de présence féminine qu'on se paye quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer dans tes plus. Que tous les gars de la bande se sont perdus.
Ça vaut le coup de vivre sa vie, Lionel Duroy ?
Ça vaut le coup de vivre sa vie. Je trouve que c'est vraiment une question importante parce que la réponse n'est pas évidente du tout. Elle n'est pas évidente. Je pense que vivre, c'est une tâche compliquée chaque jour et que la meilleure recette que j'ai trouvée pour vivre, c'est de me mettre à écrire très tôt. Et je crois que si je n'avais pas écrit, j'aurais pas trouvé la force de continuer. Donc l'écriture m'accompagne depuis l'âge de 18-19 ans.
Le dur métier de vivre, disait Pavès.
Oui, j'ai repris cette phrase, j'ai souvent songé à cette phrase. Et je trouve incroyable que dans l'enfance, on n'en ait pas du tout conscience, que finalement, jamais on ne nous le dise, jamais on ne nous prévient combien c'est difficile. Et aujourd'hui, que je commence à être vieux et que je regarde en arrière, je me dis, c'est incroyable, les choses sont souvent arrivées par hasard, j'ai pas su les voir, j'ai accumulé les bêtises, et aujourd'hui que j'ai compris, j'aimerais bien pouvoir recommencer, parce que je crois que je serai plus intelligent par rapport à ma propre vie, et je serai plus attentif aux autres. J'aurais appris, tout simplement. Mais quand on a enfin appris, il est temps de partir.
Est-ce un métier de vivre ou est-ce un métier d'écrire ?
Non, vivre, c'est stupide. Vivre, c'est pas un métier. Le métier, c'est d'écrire, c'est-à-dire de poser les mots sur ce que c'est que vivre. Vivre, c'est idiot, on n'a rien demandé, on nous met à la vie, et puis démerde-toi. Alors, on ne nous explique même pas que il va falloir trouver des mots pour se repérer dans ce labyrinthe. Alors des mots, ça peut être n'importe quelle œuvre d'art, mais on est obligé d'adopter une position de résistance par rapport à la vie, puisqu'assez vite on comprend que ça va se terminer et qu'au fond on va rien comprendre. On se dit ce sera fini avant que j'ai compris ce que je dois faire, ce que je dois regarder. Évidemment que la création artistique est indispensable. Je pense que j'ai choisi l'écriture parce que je suis d'un milieu complètement désargenté et que écrire, c'est ce qui coûte le moins cher. Et ça demande même pas d'études. Moi, après mon bac, j'ai été ouvrier longtemps avant de faire un peu d'études, mais pas beaucoup. Et j'ai compris qu'écrire, c'était gratuit. Ma première passion, ça a été de lire Knut Hamsun, dont le premier livre, c'est La Faim, F-A-I-M, qui correspondait à peu près à l'époque quand j'avais 19-20 ans et que je volais dans les magasins pour manger, que j'habitais une chambre de bonne avec mon frère. Et Knut Hamsun, quand il écrit La Faim, il vit exactement la même chose. C'est-à-dire que il habite quasiment dehors et pour vivre, il vend des petits articles dans les journaux. Et il se paye des sandwichs avec ça. Il dit déjà des mots sur ce que c'est qu'écrire et qui sont très forts. Et voilà, l'écriture, c'est la matière du pauvre. Ça demande aucun apprentissage en public. On ne paye pas qui que ce soit pour apprendre à écrire. On apprend tout seul à écrire. À force de lire, on apprend à écrire. Et l'écriture naît d'un désir très fort. L'écriture, elle vient vraiment du fond de l'âme, du fond de notre propre corps. Et on cherche les mots pour exprimer l'inexprimable, puisqu'on est perdu à 19-20 ans. On ne comprend rien. Et donc, on se nourrit de livres et on commence à poser des mots sur ce que c'est que vivre. Je remarque, et toujours ça me laisse sidérer, que personne ne nous explique comment on doit vivre. Personne ne nous apporte quoi que ce soit. Les seuls êtres qui nous apportent quelque chose, une explication sur la vie, ce sont les livres. J'ai tout appris dans les livres. Je crois avoir très peu appris des gens au fil de ma vie, à part quelques très rares personnes sur lesquelles j'aime écrire, qui m'ont donné des recettes ou par leur exemple, qui m'ont montré comment on pouvait survivre et vivre. Les seuls qui m'ont véritablement appris des choses, ce sont des artistes et d'abord des écrivains, des peintres aussi, des sculpteurs, des cinéastes, mais d'abord des écrivains parce que les livres, c'est pas cher, on peut se nourrir à bas prix. Et alors, vous comprenez, en lisant les autres, qu'ils ont été traversés des mêmes sentiments que nous. Alors c'est très rassurant. Ce sont les écrivains qui font école. Ce ne sont même pas les professeurs. Moi sur toutes mes années d'études jusqu'au bac, j'ai rencontré 3 professeurs dont je garde un souvenir immense, d'ailleurs, il faut le dire, immense, oui. Parce que tout d'un coup, en les écoutant, j'ai compris qu'il y avait une porte de sortie à l'obscurantisme, à l'enfermement, une porte de sortie pour enfin vivre et devenir plutôt un intellectuel, un autodidacte intellectuel.
Vous venez de dire tout à l'heure, Lionel Duroy, quand on nous met dans la vie, on vous a mis dans la vie, donc on ne vous l'a pas donné cette vie-là, vous étiez un enfant de trop.
Oui, j'étais un enfant de trop, oui, nous étions 11 enfants. Et je crois que nous étions tous de trop, je crois, peut-être, sauf ma sœur aînée, leur premier enfant, mais je ne suis même pas certain. Parce que ils venaient de se marier, tout de suite ils ont eu ma sœur aînée. Je pense que quand on a 24 ans, ils avaient tous les deux le même âge, mes parents, et pas d'argent. C'est difficile d'avoir si tôt un enfant. Ils étaient très amoureux, ça je le vois sur les photos. Et d'avoir si tôt un enfant, 9 mois jour pour jour après le mariage, c'est difficile. Et puis le deuxième arrive pratiquement 11 mois plus tard. Et puis ça va s'enchaîner comme ça. Donc évidemment que aucun d'entre nous n'a véritablement été un enfant attendu.
Attendu et encore moins espéré. Et quand ils étaient là, c'était des enfants dont on s'occupait pas. Vous venez de parler de vos professeurs, Lionel Duroy. Mais dans ce livre qui paraît « L'homme qui tremble », vous nous dites aussi que pendant plusieurs années, vous avez été totalement déscolarisé avec oui. L'acquiescement de vos propres parents.
L'acquiescement, avec, je ne sais pas comment dire, mais mes parents étaient effondrés, sont des gens effondrés. À l'âge de 9-10 ans, on a commencé à être expulsés, puis relogés, puis réexpulsés, puis on nous a coupé l'électricité, etc. Donc, on peut difficilement parler dans ces cas-là de lucidité de la part des parents. Ils sont dans un processus de survie, en fait. Et je mesure en écrivant, et je l'ai mesuré de nouveau en écrivant L'homme qui tremble, qu'ils sont incroyablement jeunes quand ils sont expulsés et brutalisés ainsi par la vie. Ils ont à peine 40 ans et ils ont déjà 9 enfants. Et ils vont encore en faire un supplémentaire en plein effondrement. Et c'est très jeune, 40 ans. On n'est plus un enfant, mais on n'est pas non plus très averti sur les choses de la vie. Ils sont tous les deux 40 ans, 39 et 40. Ils ont 9 enfants. Ils ont des dettes par-dessus la tête. Je ne crois pas qu'ils puissent nous regarder. Et alors, ils cessent de nous regarder et ma mère devient malade, en fait. Donc, elle perd un peu la raison, elle veut se suicider. Et donc, on est juste des personnes très encombrantes, nous, les enfants. Elle est probablement la 12e enfant de la famille parce qu'elle est complètement perdue à travers tout ce qui lui arrive. Elle essaie de survivre, elle, toute seule. Alors, on va plus à l'école. Oui, on va plus à l'école parce que quand on était des enfants bourgeois, quand j'étais petit, à 7, 8 ans, 9 ans, et jusqu'à 9 ans, donc, ils nous mettaient dans des écoles payantes catholiques. Moi, j'ai fait mes premières années à Sainte-Croix-de-Neuilly, qui est un collège pour grands bourgeois. Je n'avais rien à faire dans cette école. Et évidemment, comme mon père ne pouvait plus payer, les curés nous ont mis dehors. Et comme ma mère était très fragile et qu'elle menaçait de se suicider, mon père lui fait croire qu'on continue à aller à l'école. En fait, il est représentant et il nous garde dans sa voiture toute la journée, avec dans notre cartable toujours le même livre, puisqu'on peut plus retourner à l'école chercher d'autres livres. Donc on fait semblant d'aller à l'école et on va plus à l'école. Et comme on la considère comme un bébé, notre mère, parce qu'elle est totalement irresponsable, c'est très facile de lui dire qu'on rentre de l'école à 8 ou 9 heures du soir avec mon père, on est complètement épuisé par la journée passée dans la voiture, on n'a rien fait. Et voilà, et elle croit ce qu'on dit, ou de toute façon, ça l'intéresse plus, parce qu'elle est au-delà de ça.
L'écriture est-elle pour vous une sorte de renaissance, voire de résurrection, Lionel Duroy ?
C'est plus que ça, c'est très étonnant pour moi, l'écriture. Je mesure aujourd'hui, à mon âge, je suis né en 1949, donc je suis plutôt jeune, je mesure aujourd'hui, à mon âge, que l'écriture à la fois m'a mis au monde et m'a coupé de tout le monde. M'a coupé évidemment de mes frères et sœurs, mais m'a coupé également des femmes que j'ai aimées et qui m'ont aimé.
Vous l'avez bien cherché.
Voilà, je l'ai bien cherché, c'est ce que j'allais dire. Mais j'ai mis pas mal de temps à comprendre que c'est très difficile de vivre avec quelqu'un qui écrit. C'est très difficile, parce que l'essentiel de la réflexion, l'essentiel du souci, l'essentiel de l'inquiétude se porte sur l'écriture, se porte sur le livre en cours. Et donc, mes enfants qui sont adultes aujourd'hui m'ont souvent dit cette phrase « Oui, papa, tu étais là, mais t'es pas là, en fait ». Et parce que j'étais d'autant plus là que je suis dans la maison, donc je suis un homme au foyer, moi. J'ai 4 enfants, donc j'ai été très présent pour mes enfants. Ils rentraient de l'école, j'étais là. Je pouvais préparer.
Contrairement à vos propres parents.
Ah ben oui, ça oui. Oui, oui. Oui, ça, mes parents n'étaient pas là, non. Mais moi, j'étais là. Et finalement, mes enfants me reprochent de pas avoir été présent parce que dans le souci du livre en train de naître.
Mais le livre, c'est comme un miroir au bord du chemin, finalement, pour reprendre une expression littéraire bien connue. Et le livre est arrivé assez tardivement dans votre vie, vous l'avez dit, vers 18-19 ans, alors que vous étiez un lecteur, Lionel Duroy, extrêmement précoce. Est-ce qu'on peut se demander, à la suite de la publication de vos nombreux livres, qui sont pour la plupart d'entre eux autobiographiques, si vous vivez pour en écrire ou si vous écrivez pour continuer à vivre?
J'écris pour continuer à vivre. Et mes livres sont nourris de la difficulté de vivre, c'est-à-dire des interrogations, des tristesses, des deuils, de tout ce qui me traverse et qui chaque fois m'apparaît comme insolite. Chaque fois, je peux pas croire que ce soit si dur. J'ai eu deux séparations très douloureuses dans ma vie, dont je ne me remets pas, en fait. Évidemment, je travaille beaucoup, donc je suis capable de comprendre que chaque séparation réveille l'effondrement de ma mère l'année de mes 9-10 ans. C'est-à-dire cette espèce de désillusion totale qui vous saisit lorsque quelqu'un que vous portiez en vous, dont vous étiez certain de l'amour, tout d'un coup se détache. Et cette phrase terrible, quoi, du « je ne t'aime plus », que j'ai cru entendre à 9-10 ans quand ma mère est devenue malade et a cessé de nous regarder. Parce qu'au fond, bon, la question de savoir si on aime sa mère ou non à 8-9 ans, c'est très intéressant. On ne sait pas. On l'aime parce qu'elle nous aime. Je suppose que ça devait être ça. Elle était là, donc voilà, c'était
ma mère. Elle vous aimait pas. Elle vous l'a fait comprendre.
Oui, je pense que je pense pas que ce soit possible d'aimer 11 enfants. Je pense pas, cher Laure Adler. Je pense pas que ce soit possible. J'en ai 4. Je n'aurais pas voulu en avoir un 5e. Se diviser en 4, c'est déjà très compliqué. Et s'intéresser aux 4, au destin des 4, qui sont très, très différents, qui sont des enfants que j'adore, avec vraiment 4 personnalités complètement différentes, c'est énormément de travail. Même s'ils pensent que je suis là sans être là, j'ai été là et je continue à l'être. Et c'est une tâche continue, même quand ils deviennent adultes. Et donc, je crois qu'on ne peut pas demander à nos parents d'avoir aimé leurs 10 enfants vivants. C'est pas possible. Ensuite, tout est abîmé, tout est détérioré. Quand la vie reprend à peu près, que je retourne à l'école vers 14 ans, oui, c'est ça, 14 ans, je veux plus la regarder, ma mère, et je crois que mes frères et sœurs sont pareils. Son regard me fait peur. J'ai beaucoup écrit en disant qu'elle a un regard de folle. Et quand vous avez 14-15 ans, vous regardez plus votre mère dans ces cas-là. C'est très effrayant, un regard comme ça. Et de sorte que vous l'évitez. J'entends encore le bruit de ses babouches, ses pantoufles comme ça qui crissent sur le plancher. Et si je l'entends arriver, je pars, je vais ailleurs pour ne pas avoir à la croiser. Au repas, si on est tous ensemble, vous imaginez les tables, 10 enfants autour d'une table. Mon père qui est jamais là parce qu'il vend des aspirateurs ou autre chose en porte-à-porte. 10 enfants, ça fait 11 à table, c'est considérable. C'est effrayant, quoi. C'est vraiment une table de restaurant. Alors là, ça va. À 10 enfants autour d'elle, on n'a pas à la regarder. On regarde ailleurs, on dit des bêtises entre nous et tout ça. Mais seul à seul, je la regarde plus jamais. Plus jamais. C'est beaucoup trop effrayant. Donc, on s'est reparlé brièvement une heure que peu de temps avant sa mort, c'est tout.
Alors, vous avez des camarades de jeu, je veux dire de jeu, de vivre et d'interpénétration de la littérature et de l'autobiographie. Et parmi eux, il y a Philippe Roth. On ne peut pas ne pas penser à Philippe Roth quand on lit ce dernier texte, les précédents aussi, mais peut-être encore plus celui-ci, tant l'investigation par l'arme qu'est l'écriture des propres arcanes de votre propre être au monde est puissant. Je vous propose d'écouter Philippe Roth. Il va parler de l'écriture qui, selon lui, je ne sais pas selon vous, hein, Lionel Duroy, oui, permet de fuir la dépression. On écoute la voix de Philippe Roth, du regretté Philippe Roth.
La première phrase de mon livre, Le rabaissement, est « Il avait perdu son inspiration ». C'est un acteur, et son inspiration, c'est sa capacité à jouer. Un jour, il monte sur scène et il n'arrive pas à jouer. Est-ce qu'il m'est arrivé de penser que j'avais perdu mon inspiration ? Certainement. Par période. Sûrement, entre deux livres, lorsqu'on se dit « je ne pourrai plus en écrire un autre », la peur ne vous quitte jamais d'un livre à l'autre. Mais je ne me vois pas arrêter d'écrire. Je vais continuer à le faire, je n'arrête jamais. Les pires moments, c'est quand je n'écris pas. Je suis alors malheureux, dépressif, anxieux. Donc j'ai besoin d'écrire, désespérément. Écrire vous tient à distance de la dépression.
Nous venons d'entendre la voix de Philippe Roth. Je voulais préciser aux auditeurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est vrai, Lionel Duroy, que vous êtes aussi un grand sportif et que vous faites beaucoup de vélo, mais oui, que dans votre chaussette, je ne sais pas si c'est la droite ou la gauche, vous mettez un dictaphone quand vous partez faire du vélo au cas où vous perdriez l'inspiration, ce que vient de dire exactement Philippe Roth. C'est vrai,
oui,
ça ?
Oui, c'est vrai. Oui. Maintenant, je le fais dans mon téléphone. Je m'enregistre souvent parce que j'ai la phrase qui fait le lien. Souvent, quand je pars pédaler, après 6 heures d'écriture le matin, je pars pédaler vers 13h, 14h. Et j'ai arrêté d'écrire sur un moment compliqué. Et puis, je suis suffisamment professionnel maintenant pour savoir que je dois arrêter d'écrire à ce moment-là, que c'est idiot de continuer plus loin. Alors je pars tout de suite à vélo, il faut se faire un peu violence pour partir à vélo, parce que parfois il fait très froid et tout ça, et que vous êtes fatigué d'avoir écrit pendant 6 ou 7 heures. Quelquefois je tremble un peu même de froid ou de fatigue. On se fait un peu violence, on part à vélo, et au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure, le corps est chaud et à ce moment-là, vous êtes bien. Vous êtes terriblement bien sur le vélo, dans le vent, autour du Mont Ventoux. Et là, automatiquement, ma tête se remet à travailler. Je ne fais pas exprès. Mon esprit se remet sur mes dernières phrases. Et parfois, c'est vraiment formidable, ça. Je trouve exactement la phrase ou le paragraphe qui enchaîne. Et je me dis, ah, tu as bien raison de t'arrêter à ce moment-là, parce que tu aurais écrit de la merde, alors que là, voilà, ça vient, et c'est exactement ça. Et c'est toujours une porte qui s'ouvre véritablement vers le ciel ou vers le soleil. C'est vraiment une porte qui s'ouvre, et ça repart bien. Alors cette phrase, il faut vite l'enregistrer. À une époque, j'avais pas de dictaphone, alors je m'arrêtais pour écrire dans un carnet, mais s'arrêter à vélo, c'est très désagréable. Et donc, ça va plus vite d'enregistrer la phrase. Ce que je voulais dire sur Philippe Roth, j'aurais pu écrire exactement tout ce qu'il vient de dire, et aussi cette angoisse qui nous saisit entre chaque livre, avec la peur de pas pouvoir écrire le suivant. C'est pour ça que l'écriture, ça rend terriblement modeste, en fait. Quand je vois des écrivains parisiens faire les snobs comme ça, je suis sidéré. À l'intérieur de moi, je me dis, je pense que ce ne sont pas des vrais écrivains. Parce que l'écriture, ça vous rend tout petit, en fait. Après chaque livre, je suis assez heureux d'avoir fini un livre. J'espère qu'il dit à peu près tout ce que je voulais exprimer. Et très vite, au bout de 8-10 jours, je suis de nouveau très inquiet à l'idée de ne pas pouvoir écrire le livre suivant. Et cette inquiétude qui tourne à l'angoisse, ça vous rend très modeste, mais vraiment très modeste. Moi, ça m'arrive de marcher dans la rue et de me mettre presque à pleurer, en fait, d'angoisse ou de dépression, parce que le dernier livre est fini depuis un mois et que je ne suis plus en état d'écrire. Je n'ai plus rien à écrire. Alors c'est très angoissant. Pour compléter ce que dit Philippe Roth, Antonio Lobo Antunes, il dit exactement la même chose que Philippe Roth dans le livre d'entretien qu'il a donné, qui est paru aux éditions Belfond, je crois. J'adore ce livre. Parce qu'en fait, Lobo Antunes, dans ce livre, ne parle que de ça, de la façon dont écrire l'empêche, lui permet d'échapper à la dépression, lui permet de vivre, et cette angoisse qui le saisit lorsqu'il n'a plus rien à écrire. Et il dit, j'en suis presque à attendre d'avoir des douleurs parce que je sais que les douleurs vont nourrir le prochain livre. Voilà, c'est vraiment, je pense qu'on est solidement cinglés, en fait.
Mais faites-vous corps avec vous-même, Lionel Duroy, ou êtes-vous, comme Philippe Roth, un écrivain qui se construit des doubles, des personnages qui lui ressemblent furieusement mais qui ne sont pas tout à fait lui, des variations de lui-même? Vous, depuis pas mal de temps, on suit votre propre vie et personnellement on devient addict, je le suis, de votre propre existence parce que on a l'impression que vous nous la livrez toute crue. Mais c'est pas vrai, ça non, c'est un piège.
C'est pas vrai. Quand j'écris par exemple Échappée, certes, je vais m'installer en Allemagne du Nord. Je suis en train de chercher le titre du livre qui m'a tellement inspiré. Vous voyez, je suis ému, alors j'arrive pas à le trouver, peu importe. Je m'installe en Allemagne du Nord pour écrire dans la foulée.
C'est un livre de Lenz qui vous avait inspiré.
De Siegfried Lenz, que j'aime tellement. Et je me suis installé dans l'endroit du roman pour continuer à vivre dans son roman. Le roman m'a tellement touché, m'a tellement marqué. Ça s'appelle La leçon d'allemand. Que je suis allé m'installer et j'ai cherché le village de la leçon d'allemand. Je ne l'ai pas trouvé parce que j'ai rencontré Lenz, c'était quelques mois avant qu'il meure, il m'a reçu à Hambourg, on a passé toute l'après-midi ensemble, et il m'a dit, mais arrêtez de chercher mon pauvre Lionel Duroy, le village je l'ai inventé. Alors j'ai arrêté de chercher le village, mais j'ai quand même loué un endroit pour habiter là-bas, et j'ai continué à y habiter.
Vous êtes tombé amoureux ?
Oui, je... Vous voyez, ça, c'est véritablement le double. C'est-à-dire, ce que permet un roman, c'est extraordinaire. C'est vrai que je raconte ma vie. Mais, en fait, tout ce que je raconte dans Échappée, c'est une fiction.
Même votre amour pour cette jeune femme?
Il est déplacé, oui, bien sûr. Il n'a pas lieu à cet endroit. J'aurais voulu qu'il ait lieu à cet endroit. C'est-à-dire que ce que permet l'écriture, c'est malgré tout de multiplier les vies. C'est tellement fort d'être à l'intérieur d'un livre. Je l'écris en Allemagne, ce livre-là. Je suis dans une fiction quasi totale, même si les premières pages du livre sont hyper réalistes, c'est-à-dire je pars véritablement en train, etc. De cette façon-là, je pars à l'aventure. Et puis ensuite, c'est une vie de fiction qui me donne un bonheur incroyable. C'est-à-dire que quand je rentre en France avec ce livre, je suis véritablement au bord de la dépression. J'ai l'impression d'avoir quitté une autre planète, une autre terre sur laquelle j'étais incroyablement heureux. Et c'était que des mots. Hein. Je ne faisais qu'écrire, je marchais, j'écrivais. Non, j'avais loué un vélo aussi. Mais il y a tellement de vent là-bas que je me faisais jeter par terre par le vent et je riais tout seul. Quoi. C'était magnifique.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Lionel Duroy. Pour notre plus grand bonheur, c'est Christophe. L'enfer commence avec elle.
arcades de ses yeux. Il y a eu tant d'amoureux, tant de passants provisoires. Et puis soudain, de mon cœur à son cœur, comme l'écho d'un amour qui me laisse sans voix, toujours dans mon ombre, la nuit soupire, me dévisage sans rendez-vous. Là, d'un seul coup, elle voit le bleu de mes rêves. J'attends son âme quand le soir ouvre le bal. Je me pique à son étoile. L'enfer commence avec elle. Arcade de ses yeux, j'envisage mes nouveaux scènes, cocktail de pâleur, bloody, mortel. Mon mauvais ange se change pour me plaire en belle de nuit, et son souffle avec le feu sans éteindre ma vie. Joue encore sans rendez-vous. Là, d'un seul coup, elle boit le bleu.
L'écriture, Lionel Duroy, est-elle pour vous un arrangement avec la vérité ou une construction de vérité de nouvelles que vous trouvez lors du processus de l'écriture même ?
Je pense que c'est une construction de la vérité. C'est très difficile d'écrire juste, de chercher la vérité. Sans ça, j'écrirais pas « L'homme qui tremble ». Après avoir écrit une vingtaine de livres déjà, plus ou moins autobiographiques, comme vous l'avez dit, mais qui sont tous des livres où j'ai essayé de mettre des mots sur l'incompréhensible ou sur l'indicible. Si j'ai éprouvé le besoin, l'incroyable audace aussi, ou je sais pas comment appeler ça, d'écrire un autoportrait, ça peut paraître... véritablement de l'orgueil ou de la suffisance, c'est pas du tout ça, bien sûr. Il y a un moment, je me suis dit, j'ai pas réussi vraiment à attraper tout ce qui s'est passé, Et la seule façon de l'attraper, ça doit être de passer par l'autoportrait. Et j'ai compris que je devais passer par l'autoportrait grâce à ce livre magnifique de Nathalie Léger, ce livre qu'elle consacre à Barbara Loden et dont le titre est « Supplément à la vie de Barbara Loden ». Ce livre qui a été publié il y a une dizaine d'années, qui est un petit texte chez POL, qui m'a complètement bouleversé. Parce qu'en fait, Nathalie Léger traque la brève vie de Barbara Loden, qui est réalisatrice, qui n'a fait qu'un film, Vanda, sorti en 1970, et qui explique qu'à travers Vanda, elle fait son autoportrait. Elle explique qui elle a été dans la vie. Et Vanda sort peu avant que Nathalie Léger, que Barbara Loden meure très jeune. Et alors, les journalistes l'interrogent sur Vanda, sur ce film autobiographique. Et et Barbara Loden a cette phrase magnifique. Elle dit « J'ai traversé la vie comme une autiste, persuadée que je ne valais rien, incapable de savoir qui j'étais, allant de ci de là sans dignité. » Et moi, quand j'ai lu cette phrase, j'ai pensé que moi aussi, j'avais traversé la vie sans savoir qui j'étais, pensant que je ne valais rien, incapable de savoir où j'allais. Et ça, tout d'un coup, de lire cette phrase, je me suis dit, mais bien sûr, même après tous ces livres, en fait, j'ai peut-être encore rien compris. Alors, je vais vraiment essayer de me pencher sur l'homme que je suis devenu. Il y a aucune gloriole à faire ça. Au contraire, on est si peu de choses. Et j'ai essayé de comprendre comment j'ai fonctionné durant toute cette vie. Et j'ai vu combien j'ai tremblé souvent parce que je ne comprenais pas une situation. Le titre m'est venu de lui-même. Je suis vraiment un homme qui tremble devant la vie. Ce qui ne veut pas dire que je n'affronte pas la vie. Hein. J'ai couvert volontairement la guerre en Yougoslavie. J'ai couvert beaucoup de conflits parce que je voulais y aller, parce que justement je voulais comprendre de quoi était fait la vie, comment on pouvait s'entretuer, etc. Mais c'est pas parce qu'on risque sa vie dans certaines situations que nous ne restons pas un homme qui tremble.
Est-on obligé de vous croire, Lionel Duroy, quand vous expliquez, aussi bien dans ce livre qui sort, qui s'intitule « L'homme qui tremble », que dans un texte magnifique qui s'intitule tout simplement « Écrire », qui est une sorte de longue lettre à votre éditeur, est-on obligé de vous croire quand vous répétez avec insistance que vous êtes un sot, que vous êtes un autiste, que vous n'êtes pas intelligent, que vous comprenez rien, ni à la vie, ni à votre propre vie ? N'est-ce pas une pause ?
Non, ça,
une stratégie.
Ça l'est vraiment pas, et ça me joue beaucoup de tours en fait, parce que je ne comprends jamais les deuxièmes degrés et encore moins les troisièmes. Donc je vis tout au premier degré, ce qui fait que pratiquement toutes les femmes que j'ai aimées se sont foutues de moi au bout d'un certain temps en fait. Je comprends pas beaucoup les plaisanteries. Je suis très premier degré. Je pense que je m'entends si bien avec mon éditeur. C'est vrai que écrire est une lettre que je lui ai écrite il y a longtemps, hein. C'était en 2005, je crois, ou 2004. Et voilà, je me sens bien avec cet homme parce qu'on doit avoir des côtés communs. On ne se voit qu'en tête à tête pour déjeuner. Je me sens bien, je me sens pas traqué. Je pense que j'ai écrit aussi l'homme qui tremble parce que j'ai le sentiment très souvent de ne pas comprendre ce qui se joue sous mes yeux, de ne pas voir. C'est-à-dire d'avoir une forme d'ingénuité et de stupidité, en fait, qui fait que les gens me disent « Ah bon, mais t'as pas compris là ce qu'on te proposait, ou t'as pas compris ceci, t'as pas compris cela ?» Et non, j'ai pas compris ceci et cela, non. J'avais pas vu, en fait. Alors, si on me l'explique, évidemment, toute la société se joue toujours au deuxième ou troisième degré. C'est très compliqué. Je dis pas que je suis autiste du tout, mais je pourrais reprendre les mots de Barbara Loden. J'ai traversé la vie comme un autiste, oui, sans comprendre, voilà, avec ce sentiment d'être un peu perdu et de courir après la réalité ou la vérité.
Je vous propose d'écouter la voix de Jacques Lacan. Il va parler de la vérité. Écoutez.
Je dis toujours la vérité. Pas toute. Parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible matériellement. Sans les mots qui y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité touche au réel.
Comment vous comprenez ces phrases de Lacan qui sont devenues un peu célèbres et qu'on répète à l'envi sans forcément les comprendre tout à fait ? Premier degré, deuxième degré ?
Premier degré. Et je me dis, il m'a fallu... 20 bouquins pour essayer de dire une vérité que j'ai toujours pas bien attrapée. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure avec cet autoportrait. Je me suis dit, ah bah tiens, en passant par l'autoportrait, peut-être que je vais y arriver mieux. Et quand je l'entends parler des mots qui manquent, très premier degré, j'entends le temps me manque aussi. Mais c'est vrai, les mots me manquent aussi pour dire l'ambivalence. C'est intéressant quand vous dites, vous me demandez quelle part de fiction il y a dans mes livres, etc. On se débrouille avec l'outil comme on peut pour rattraper une part de vérité. Mais je reste très premier degré là-dessus, c'est-à-dire que les mots me manquent, le temps va me manquer. Et je suis déjà en train d'écrire un nouveau livre où j'essaie d'attraper quelque chose que j'ai pas dû attraper dans L'homme qui tremble.
Mais il y a quelque chose qui m'inquiète en vous, Lionel Duroy. Tout à l'heure, vous avez dit, quand je vais partir faire du vélo, j'emporte mon téléphone portable au cas où l'inspiration me viendrait. Mais comme je suis devenu un professionnel, c'est le mot que vous avez employé, eh bien, je sais à quel moment je peux quitter ma page. N'avez-vous pas peur, ne tremblez-vous pas à l'idée de devenir justement un professionnel de l'écriture ?
Je vais vous dire.
Quel est le pacte de sincérité que vous nouez avec nous, lectrices et lecteurs ?
Plus vous êtes professionnel de l'écriture, selon moi, plus vous allez atteindre la sincérité. Je me souviens quand j'essayais d'écrire à 20 ans, les mots me manquaient, les phrases sonnaient faux, rien n'allait. Je n'arrivais pas, dans ma tête c'était une folie totale, enfin ça bourdonnait, ça débordait de partout, et je n'arrivais pas à le rendre en mots. Or, au fil des livres, j'ai vu que j'étais en train d'acquérir une maîtrise, mais aussi du sang-froid, de la patience, un certain courage pour attendre que ça vienne et pas m'énerver, pas m'exciter. Le temps, jouer sur le temps. Je veux dire par là que plus vous êtes habile avec les mots, comme on peut être habile avec un violon quand on est un bon musicien, plus vous allez attraper en profondeur. Plus la pêche va être forte et bonne. Il faut devenir professionnel pour écrire. J'ai employé ce mot à dessein de professionnel. Et personne ne vous l'apprend. Vous êtes autodidacte quand vous écrivez. Ce sont des choses qui se pressentent. C'est tout un travail. Et je suis certain de ça. C'est-à-dire, je pense que L'homme qui tremble, ce dernier texte, est le plus proche de la vérité, le plus honnête par rapport à mes autres livres. J'ai pas envie de relire « Priez pour nous », mon premier roman publié, parce que je pense qu'il est bourré de maladresse. Et qu'en le lisant, je vais penser « Mon Dieu, 30 ans après, je l'aurais pas dit comme ça, c'est grossier comme je l'exprime. Tout est plus subtil que ça. Je parlais de ma mère comme une folle, etc. » J'ai appris à trouver des mots plus justes pour creuser à l'intérieur de la femme qu'elle était, de mon regard sur elle, de mon angoisse. Combien de temps j'ai mis ? Peut-être 30 ans ou 40 ans à comprendre que ce qui me fait peur, par exemple, chez une femme, c'est la femme qui est cachée derrière celle que je vois.
Les femmes sont toujours cachées, Lionel Duroy. Il va falloir vous y faire, hein, l'âge que vous avez.
Voilà, il va falloir que je m'y fasse. Et non, mais vous voyez le côté premier degré comme ça. C'est-à-dire que... Et ça, rendre ça, rendre qu'une femme peut en cacher une autre. Et donc, une
femme. Et un homme peut en cacher un autre aussi.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça va de soi, hein, quand je dis une femme peut en cacher, parce que je dis ça parce que je suis hétérosexuel. Si j'étais homosexuel.
Ça, on l'a compris. Et voilà. Aucun, on le saurait pas. Si on lit L'homme qui tremble, on a compris que vous étiez un grand séducteur. Mais justement, dans ce texte, l'amour tient une très grande place. Les différentes amoureuses que vous avez eues, à chaque fois, c'était l'amour fou. Mais n'empêche que, bon, généralement, c'est vous qui vous faites quitter, hein. Excusez-moi, Lionel.
J'ai toujours été quitté, oui.
Oui. Bah oui, et puis vous en apercevez pas. Pourtant, elles vous font des signes insistants, mais vous n'y comprenez rien. Là, c'est le côté autiste, peut-être. Mais toujours est-il que dans l'écriture qui est la vôtre, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a quelque chose de l'après-coup. Vous comprenez ce que vous avez vécu que quand, peut-être, vous écrivez ce que vous avez vécu il y a longtemps. Qu'est-ce que c'est que cet après-coup ?
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je comprends grâce à l'écriture. L'écriture est cet outil qui permet de creuser, vraiment. Qu'est-ce que c'est l'après-coup ? C'est que, sur le coup, l'émotion est beaucoup trop violente. Et l'émotion submerge les mots. Elle recouvre, elle noie, en fait, toute la vérité du moment. Peut-être que je suis trop émotif. L'émotion, c'est très compliqué de maîtriser l'émotion. Moi, j'adore regarder les débats politiques et tout ça. J'adorais les débats entre Mitterrand et Giscard. J'adore tout ce genre de choses. Et chaque fois, je suis en admiration devant la façon dont ces femmes ou ces hommes qui font de la politique parviennent à canaliser leur émotion et à la dissimuler. C'est incroyable, enfin, cette force qu'il faut avoir, comment répondre à « vous n'avez pas le monopole du cœur » et à d'autres phrases de ce genre-là, voilà, en restant absolument de glace, comme ça, c'est extraordinaire. L'émotion, malheureusement, est un gros handicap, je pense. Et après coup, lorsque je me mets à écrire sur ce qui nous est arrivé, ou sur ce qui m'est arrivé, alors j'arrive en effet à exprimer, à expliquer, y compris à justifier la femme qui me quitte et à comprendre pourquoi elle me quitte. Mais sur le moment, je le comprends pas, et je le comprends d'autant moins que j'ai toujours un livre de retard. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand la femme que j'aime est en train de me quitter, je suis en train d'écrire un livre pour dire combien je l'aime. C'est parce que on met aussi plusieurs années à comprendre combien on aime quelqu'un. Et à un moment, j'ai terriblement envie d'écrire le livre de mon amour. Alors je l'écris, bien sûr. Mais au moment où je l'écris, peut-être je n'ai pas vu qu'une grande partie est déjà effondrée. Je l'ai pas vu venir. Je pense que, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, je pense que c'est difficile de vivre avec un écrivain parce qu'il est peu attentif à ce qui se passe dans l'immédiat autour de lui. Les choses se recréent plus tard. J'aime ça aussi d'ailleurs, j'aime terriblement ça. Pouvoir tout revivre à travers un livre alors que ça a cessé d'exister.
Ma dernière question ne sera pas une question, enfin ça sera plutôt votre question, c'est celle qui clôt votre livre, mais vous n'aurez pas le temps d'y répondre. Et d'ailleurs les auditrices et les auditeurs n'ont qu'à lire votre livre. Voici comment se termine L'homme qui tremble, et maintenant qu'allons-nous devenir ? Point d'interrogation. Thank you.
te regarde plus. Tu disparais si tu fermes les yeux. Je m'évanouis, il faut se tenir éveillé. Jour et nuit, si tu t'endors, je te réveillerai si tes yeux me quittent un instant. Je disparais si je me retourne soudain. Tu n'existes plus, nous n'avons pas le droit de nous perdre de vue, nous n'avons pas le choix. Et tu le sais, et même si tout concourt autour à nous distraire, si sentir d'autres regards peut nous éloigner, il n'est pas question que l'amour vienne à manquer si tu restes éveillé. Je peux le faire, je peux ne plus rien voir autour. Tu peux rester l'unique objet de mon regard. Et en retour, tu ne peux que me regarder. Nuit et jour, si tu faiblis, je risque de partir en fumée si je ne te regarde plus. Tu disparais si tu fermes les yeux. Se tenir éveillé, jour et nuit, si tu t'endors, je te réveillerai.
Et c'est avec cette belle chanson de Dominique A, Les Éveillés, que nous allons nous quitter. Merci infiniment Lionel Duroy. Merci pour ce livre magnifique qui paraît en cette rentrée littéraire 2021 et qui s'intitule « L'homme qui tremble » et qui paraît aux éditions Mialet Barreau. Merci à toute l'équipe. Merci à Kevin Pelot qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. À toute l'équipe, Élodie Royer, Céline Villegas et Alexandra Brouillet, et bien sûr à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission.